On va parler un petit peu de nature maintenant avec Philippe Rivière de la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
On va parler un petit peu de ce qu'est la LPO, de ce qu'elle fait et, au quotidien. Je te propose de commencer par une petite présentation, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit.
Oui. Alors la LPO, c'est une très vieille dame puisqu'elle a été créée en 1912 en Bretagne pour sauver les macaremoines. Qui sont des petits oiseaux, voilà. Oui. D'où le logo de la LPO aujourd'hui.
D'ailleurs, c'est un macareux, oui,
voilà,
tout à fait.
Deux petits macareux,
deux
même,
petits
sur le logo.
Exact.
Hein, donc, 1912. Et donc, elle a d'abord protégé les oiseaux. Et puis, petit à petit, elle s'est aperçue, bien sûr, qu'il fallait aussi protéger l'ensemble de la biodiversité.
Oui.
D'où aujourd'hui son nom LPO, Agir pour la biodiversité.
Oui, d'accord.
Voilà, donc sur les logos, on voit apparaître maintenant ce terme si souvent oublié dans la transition écologique, qu'est la biodiversité.
Agir pour la biodiversité.
Voilà.
Oui, non, mais c'est effectivement le titre complet.
Enfin, si le titre dire, complet, oui. Exactement.
Alors, donc 1912.
1912.
Et c'était des précurseurs.
C'était des précurseurs. Hein.
Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que...
Oui, oui. C'était les Parisiens qui arrivaient de Paris, justement, avec les nouveaux chemins de fer et qui venaient tirer, justement, ces jolis macaremoines.
D'accord.
Et donc, devant cette destruction systématique, il y a des gens qui se sont réunis et qui ont créé la Ligue pour la protection des oiseaux.
Voilà. Alors aujourd'hui, en 2020, plus de 100 ans après la fondation, 108 ans après la fondation, quelles sont les actions aujourd'hui? Qu'est-ce que fait aujourd'hui la LPO, Agir pour la biodiversité?
Alors elle fait plein de choses.
Oui.
Elle participe à la connaissance par ses prospections, ses comptages. Elle travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On a un programme qu'on appelle le programme STOCK, par exemple, qui est un suivi des oiseaux chaque année. Des bénévoles, des salariés suivent des carrés bien définis.
D'accord.
Et comptent les oiseaux qui y sont présents.
D'accord.
Donc ce qui nous permet depuis plus de 20 ans d'établir des tendances sur la diminution ou l'augmentation de certaines espèces. Malheureusement, on a plus souvent des diminutions.
D'accord.
Même si chez les espèces généralistes, on voit quand même une augmentation des populations.
D'accord. Donc il y a un volet scientifique, on va dire, recherche, vous êtes sur le terrain.
Tout à fait. D'expertise également.
D'expertise.
Auprès des entreprises, auprès, par exemple, sur le Rhône, la LPO est spécialisée pour travailler avec les carriers. Pour les accompagner maintenant, suivant la législation, ils doivent protéger la biodiversité, oui. L'environnement. Donc la LPO les accompagne dans ces actions pour protéger. Elle fait aussi de la sensibilisation,
oui.
De l'éducation. Hein. Beaucoup d'animateurs et d'animatrices travaillent au sein de la LPO pour porter la bonne parole, je dirais.
Oui. Puis d'où votre présence aussi au Salon Primevert aujourd'hui.
Voilà,
enfin,
donc
ce week-end,
la LPO aura un stand avec une trentaine de bénévoles qui vont se succéder pour accueillir le public et répondre à ces questions. Voilà, après, dans les actions, c'est tellement touffu.
Oui, non, mais voilà, dans les grandes lignes.
Dans la LPO, on essaie de créer un bouillon dynamique pour que les gens qui ont envie de s'investir et d'agir puissent venir avec nous et travailler pour cette protection.
À leur niveau, sans forcément... Voilà,
exactement.
Ils s'investissent à la hauteur de leurs moyens, de leur temps.
Voilà.
Très bien.
Et il y a un niveau extraordinaire, c'est le réseau des jardins-refuges.
Oui. Alors parlons-en, oui.
Voilà, alors un particulier, après on pourra parler des établissements, des collectivités, mais on peut commencer par parler des particuliers. Un particulier peut rejoindre le réseau des jardins-refuges. Il s'engage à respecter une charte.
D'accord.
Pas de produits chimiques.
Oui.
Favoriser au mieux la biodiversité dans son jardin ou sur son terrain, en aménageant, en étudiant les strates, les différentes strates végétales, sans tondre systématiquement, voilà.
Oui, c'est ça, il va suivre certains conseils.
Je dirais du bon sens déjà, pour accueillir la nature.
C'est sûr.
Voilà, il va adopter des gestes éco-citoyens, par exemple composter, récupérer les eaux de pluie, éviter le plastique éphémère, on en parle beaucoup aujourd'hui, et ça dans le jardin, je crois qu'on peut aussi le faire. Et puis pour les grands terrains, faire un espace sans chasse. Voilà, mais ça, parle des plus grands jardins, des plus grands terrains.
Ou des parcs, ou des bouts de...
Voilà, et c'est une action phare de la LPO, parce que ça permet aux gens d'agir à leur porte.
Oui, tout à fait.
Et facilement.
Oui.
Voilà,
bien
souvent,
sûr.
Les gens nous disent, c'est bien joli, on entend à la radio l'effondrement, le déclin des oiseaux. Que peut-on faire, nous, simples citoyens, qui n'avons pas beaucoup de moyens, beaucoup de temps? Eh bien, on leur dit, si dans votre jardin, sur votre terrain, même sur votre balcon, vous pouvez mener cette action et intégrer le réseau des jardins-refuges.
Très bien. Donc et ça, oui, tout le monde peut le faire. Peut l'intégrer. Il suffit de suivre des bons conseils et du bon sens, comme tu le disais.
Voilà, d'accord. Tout à fait. Et sur le stand, on a une maquette qui représente un petit peu les aménagements que les gens peuvent mettre en place sur leur terrain, dans leur jardin. Et ça a beaucoup de succès. Les gens sont partants.
Ils se rendent compte qu'ils peuvent vraiment être utiles. Et donc, j'imagine par extension qu'une collectivité locale, une entreprise qui a du terrain, qui a un toit, peut faire des choses.
Une école, un collège, un EHPAD. Oui. Une entreprise, une collectivité qui a un jardin public, peut rentrer également dans ce réseau. Alors là, ils seront accompagnés par des salariés.
Oui.
Là, il y a une convention qui est signée avec ce genre d'établissement ou collectivité. Et puis, la LPO va établir un diagnostic sur la biodiversité présente, va faire des préconisations ensuite d'aménagement.
D'accord.
Et donc va accompagner. L'établissement ou l'entreprise ou la collectivité dans son cheminement de refuge LPO.
Bon, super. Alors ça, c'est effectivement une action que monsieur et madame tout le monde peut mener, enfin, en tout cas intégrer ce gros dispositif qui est donc non seulement dans toute la France, mais bon,
la LPO, on peut le dire, est d'abord une association nationale.
Oui.
Qui est présidé par Alain Bougrain-Dubourg, qui est quelqu'un d'assez connu et remarquable. Et puis, cette association se décline dans toutes les régions, dans tous les départements. Voilà, donc, au niveau local, on peut intervenir dans ces jardins-refuges.
Très bien. Et alors, si vraiment on n'a pas de chance, qu'on n'a même pas de balcon, on ne peut rien faire par soi-même, comment on peut rejoindre la LPO, se rendre utile?
Le mieux, c'est de s'inscrire, je crois, sur la newsletter de la LPO,
oui.
De recevoir toutes les informations qui sont menées dans son département,
oui.
et d'agir, de participer aux prospections, aux comptages, aux sorties d'initiation. Ça, je crois que c'est très important de se reconnecter, et je pense que réapprendre à observer la nature, c'est se reconnecter avec cette nature. Les gens ont peut-être perdu ce côté contemplatif et d'observateur. Et que ce soit dans un jardin refuge, que ce soit dans la nature pendant une sortie, je crois que c'est essentiel. Voilà, et puis ensuite, ils peuvent travailler. On a des groupes d'action.
D'accord.
À la LPO. Je vais parler plus particulièrement du Rhône, parce que je suis rattaché à la LPO Rhône. On a un groupe d'action sur le Grand-Duc. Sur le faucon pèlerin, sur les frais des clochers, sur la chevêche, des espèces un peu emblématiques qui sont en danger. Mmh. Et donc, on a besoin de gens, de surveillants, de prospecteurs. On a une base de données participative qui s'appelle Faune Rhône, mais il y a Faune France pour l'ensemble des départements, sur lequel les gens peuvent rentrer leurs observations naturalistes.
D'accord.
Donc... Tout ça est à la portée de tous.
Comment ça se passe en pratique? Prenons un exemple, hein, le Grand-Duc ou un faucon. Qu'est-ce qu'on peut faire On observe, on se rend compte.
Voilà, on contacte la LPO. Il y a un référent pour chacun de ces groupes.
D'accord.
Et le référent organise des sorties de prospection. Alors, souvent d'abord des sorties d'initiation.
Oui.
Pour que les gens sachent reconnaître le chant, le cri, l'animal. Et puis ensuite, on connaît des sites qui sont suivis.
D'accord.
Là, actuellement, le Grand-Duc, les jeunes Grand-Ducs sont en train de d'éclore. Mm-hmm. Hein, donc, il faut surveiller ces sites et puis découvrir de nouveaux sites potentiels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prospection pure, je dirais.
D'accord, très bien.
Donc les gens sont invités à nous rejoindre, à s'initier et puis ensuite à agir.
Oui.
Exactement,
très
agir.
Bien. Est-ce que tu peux nous donner les noms des sites internet, réseaux sociaux, le moyen le plus simple de vous retrouver
Il faut taper LPO.
Tout simplement.
LPO France, si on veut avoir la globalité.
D'accord.
Sinon, LPO de son département.
Oui, d'accord. Avec le nom de son département.
Voilà, avec LPO, vous tombez là où vous voulez.
Tant qu'à faire sur un moteur de recherche vert, il y en a plein.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Philippe.
Je t'en prie.
Merci et bon salon.
Merci.